Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour parler aujourd'hui du deuil, donc un nouvel épisode concernant le fait d'être en deuil, endeuillé, le fait de perdre quelqu'un, d'être face à la mort d'un proche, donc un sujet qui est difficile parce que en même temps tout le monde, je pense, dans sa vie est sujet à vivre ce temps, cette expérience, cet événement, et en même temps ça reste toujours quelque chose de irreprésentable, impensable, et donc qui est presque des fois mis sous tapis. Enfin, j'ai l'impression que on l'aborde sans l'aborder, alors que c'est quelque chose de très commun, malheureusement. Ça pose justement donc les fondements de: est-ce que le deuil c'est une expérience? Est-ce que c'est un état psychologique? Est-ce que le deuil est intime? Est-ce que c'est quelque chose de social? C'est vraiment quelque chose qui est autant pris dans la société, mais qui est en même temps une expérience qui est interne. Donc selon moi, le deuil c'est une expérience intime, mais qui s'inscrit dans une société, dans une culture qui en fait donne les codes de sa possibilité. C'est pour ça que je trouve que c'est assez délicat, parce qu'on a beau le vivre de façon profonde, interne, personnelle, pour autant la société prend part quand même à la question du deuil et donne sa conception de la norme du fait d'être endeuillé. En fonction du système, de la culture dans lequel et dans laquelle on grandit, on évolue, on nous transmet le deuil. Et la façon de vivre le deuil n'aura pas la même signification et la même expression d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une religion à une autre, etc. D'ailleurs, pour donner un exemple, dans notre société, on a ce sentiment que si une personne ne pleure pas quand elle est endeuillée, elle n'exprime pas sa peine, et ben elle serait par exemple déviante des normes collectives du deuil. De même par exemple pour quelqu'un qui exprimerait une souffrance encore très présente même des années après le deuil, on se dirait que la personne n'est pas passée à autre chose, qu'il y a un problème. Alors que pour autant on peut penser que dans d'autres cultures, dans d'autres systèmes, il peut avoir aussi des formes de célébration autour du deuil, de joie, une autre façon de dire au revoir à la personne, voire une compréhension beaucoup plus empathique quand des années après la personne est toujours dans ce qu'on pourrait dire un système endeuillé. Donc on voit vraiment que la culture et le système dans lequel on grandit donne quand même nos possibilités d'être en deuil. Pour moi, donc, l'expression « travail de deuil », dont je reviendrai plus tard, c'est une convention sociétale avant tout. Et des fois, c'est ça qui, je pense, fait qu'on a du mal à parler du deuil, parce que on en oublie, en fait, la représentation intime que cela vient représenter. Donc, ce tabou du deuil et de la mort dans la société, c'est vraiment pour moi l'idée qu'on a très peu envie de parler de ce que ça fait vivre. D'autant plus que c'est quand même un processus qui est normal, on y est tous confrontés un jour dans notre vie. Et je pense qu'en fait la mort en tant que telle, c'est quelque chose qui est tellement révoltant, sans sens, même si c'est encore une fois un processus habituel et qui fait partie de la vie, la mort c'est abstrait. Et on oublie en permanence qu'elle existe. Même si on s'imagine sa propre mort, on est toujours le spectateur, en fait, de cette situation. On ne peut pas se la représenter en soi, c'est une expérience que personne ne peut venir vraiment raconter. En soi, d'ailleurs, on ne croit pas vraiment à notre propre mort et à celle de ceux qu'on aime. Sans s'en rendre compte, on peut même porter l'illusion de l'immortalité. C'est quelque chose qui est inconscient, mais heureusement, en même temps qu'on oublie qu'en fait, il y a une forme de finitude. C'est parce que, aussi, on peut mourir, qu'on est en vie et que celle-ci a du sens. Sauf que pour que cette vie-là a du sens, on est obligé de se représenter qu'il n'y a pas de fin, d'une certaine façon. Donc c'est très difficile de parler de la mort. On est obligé d'être dans ce déni-là de la finitude pour soi et pour ses proches. Et encore une fois, heureusement qu'on a ce processus de refoulement, parce que si à chaque fois que son enfant ou son conjoint passe la porte et qu'on se dit qu'il peut risquer de ne pas rentrer, de se faire écraser, de mourir, on n'arriverait plus vraiment à vivre et à continuer à être dans des projections, dans des projets, des rêveries, etc. D'ailleurs, je trouve que c'est assez singulier parce que quand une personne a perdu quelqu'un récemment, on peut voir que cette personne est souvent dans une forme de retour du refoulé, du refoulement, et donc dans une hyper-présence autour de la mort, et voire donc une hyper-vigilance autour de la mort. Donc d'avoir très peur que d'autres proches aussi meurent, peut-être peur que la personne en tant que telle meure aussi, et donc de beaucoup plus être sensible au risque et à la finitude. Donc si vous avez écouté mon épisode sur le traumatisme, j'avais expliqué aussi le fait que, d'une certaine manière, la fin, c'est un concept négatif, c'est peu conscientisé, et c'est pour ça que quand on est confronté à une scène qui peut engendrer de façon réelle ou imaginaire la mort, c'est extrêmement traumatique, parce qu'en fait, on n'a pas d'image inscrite de notre mort et de la mort en tant que telle dans notre inconscient. Ça, c'est ce que Freud aussi va amener petit à petit. Donc Freud, d'ailleurs, il a amené le concept, le parallèle en tout cas entre le deuil et la mélancolie. Pour les penseurs de la psychanalyse, c'est vraiment un livre qui est lu, relu et qui est beaucoup discuté. C'est pour ça que d'ailleurs je mets l'épisode du deuil après l'épisode de la dépression. C'est pas pour foutre le cafard à tout le monde, hein, mais c'est pour penser aussi ces deux sujets ensemble. En fait, il y a un parallèle avec le mélancolique chez Freud et le deuil, c'est parce que le mélancolique, pour Freud, c'est quelqu'un qui est en deuil. Donc, comme dans la dépression, il y a une forme de deuil, mais c'est pas de quelqu'un, mais c'est de lui-même. Freud disait que le mélancolique avait perdu une partie de lui. Donc la grande différence en termes méta-psychologiques concerne donc ce qui est perdu en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a perdu un objet cher dans le deuil, et dans la mélancolie, cet objet cher, c'est une perte, mais c'est narcissique, c'est de soi. Dans le deuil, la perte, on appelle ça objectale, c'est-à-dire qu'elle concerne un objet, mais pas un objet dans le sens commun, mais une personne, un être, où on avait un investissement qui était donné dans la relation et autour de cette personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vraiment cette représentation qu'on ne pourrait pas vivre sans cette personne, parce qu'elle fait partie aussi de soi. Donc c'est pour ça que dans le deuil, on a beau dire qu'on perd quelqu'un, un sujet, donc un objet, que la perte est objectale, en réalité, il y a toujours quelque chose aussi de narcissique. Il y a une partie de soi qui s'en va avec la personne décédée. Quand on perd un parent, par exemple, il y a un bout de notre enfance qui s'en va, voire même l'impression que toute notre enfance part avec ce parent. Et donc on perd cela aussi. On perd la personne en tant que telle, mais peut-être nos souvenirs d'enfance et la partie d'enfant qui reste en nous. Et on perd donc le statut qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de cette personne. Donc le statut de fils d'eux, fille d'eux. Donc il y a aussi quelque chose de narcissique. J'emploie le mot narcissique, c'est vrai que je l'ai peu développé dans les épisodes, mais en psychanalyse, quand on dit quand on parle du narcissisme, c'est pas au sens négatif du terme d'être quelqu'un de trop narcissique, donc qui se regarderait trop dans le miroir, mais c'est vraiment l'ensemble des investissements qu'on peut avoir sur soi. Donc il y a une composante positive, constructrice, et donc il y a la composante qui peut être plus délétère. Mais là, en tout cas, c'est le côté narcissique dans la perte et dans le deuil est quelque chose de normal. C'est pas que juste on s'aimait trop quand la personne nous aimait, etc. C'est juste que dans chaque relation, il y a aussi un investissement narcissique parce que c'est un aller-retour entre ce qu'on nourrit chez l'autre et ce que l'autre nous nourrit aussi. Donc le deuil, c'est un événement qui est normal malgré son caractère impensable. C'est ça qui est toujours particulier, c'est que c'est un processus qui fait partie de la vie. Pour autant, c'est vécu psychiquement comme quelque chose de l'ordre du chaos et d'impensable, d'irreprésentable. Donc ça montre à quel point on est tous traversés aussi par des émotions, des sentiments, où la normalité fait partie du normal. Alors bien sûr, il peut y avoir des deuils qu'on dit pathologiques, même si en réalité j'aime vraiment pas ce terme parce que j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vivre la mort de quelqu'un de façon pathologique. Mais en tout cas, si on considère le deuil comme une expérience interne et pas une expérience externe, il y a en effet des situations où le deuil, même au bout de plusieurs mois, d'années, on le vit comme si ça s'est passé hier. Et donc là, il peut avoir aussi une dépression qui s'installe et un travail sûrement à faire autour de ça, des investissements autour de la personne disparue, mais aussi de ce que c'est venu faire bousculer en nous, et peut-être que ça vient réactualiser et réveiller aussi d'autres choses. Alors, on parle souvent de travail de deuil, donc c'est une expression que j'entends tout le temps, de « il faut faire son travail de deuil », voilà, ça met du temps, c'est un travail de deuil, il y a des étapes, etc. Et c'est vrai que bon, c'est toujours particulier d'employer le mot « travail » parce qu'il y a l'idée que le travail, ça n'attend pas, d'une certaine manière. Et en fait, je pense que les deuils sont d'autant plus difficiles à vivre et à survivre aussi, donc c'est-à-dire à recréer dans l'après-deuil, quand justement on n'a pas pris le temps d'être endeuillé. Parce que quand on parle de travail du deuil, ça voudrait dire que la personne, elle est travaillée par le deuil, donc elle n'est pas active, ça se contrôle pas, il y a un côté assez passif, ça serait le deuil qui vient nous travailler. Et quand on parle de travail de deuil, vous voyez la nuance entre travail du deuil et travail de deuil, donc le travail de deuil, la personne là, elle serait plus active, elle serait dans un contrôle, dans une réactivité autour du processus. Donc dans ce sens-là, ça me paraît mieux, enfin plus entendable, mais c'est quand même pour moi encore assez particulier de le penser en termes de travail, à part si en fait c'est conçu comme quelque chose de dynamique dans un aller-retour. Et ça, ça me parle plus. C'est comme le concept de stade, enfin d'étape de deuil. C'est pas le mieux selon moi parce que je trouve que ça donne un côté assez figé où il y aurait des paliers comme un escalier avec des objectifs où petit à petit on monte marche après marche sans pouvoir à certains moments donnés redescendre d'une marche. Alors que pour moi on peut des fois être arrivé en haut de l'escalier puis redescendre puis reprendre la quatrième marche et ça donne un côté dynamique qui pour moi est très important dans le deuil, mais comme dans toute étape de vie, comme tout processus, réorganisation, etc. Donc moi je vois plutôt ça comme des oscillations. Donc voilà, ça peut venir, repartir, des fois on a besoin de retourner en arrière pour réinscrire quelque chose, et ainsi de suite. Et dans le processus de deuil, quand on parle de travail de deuil, Freud, il en parle, et donc il a un sens plus freudien, forcément, qui est différent, puisque lui, en fait, il voit le travail de deuil comme une réorganisation des investissements psychiques, un remaniement. Donc, c'est-à-dire, toujours dans un point de vue assez économique, parce que c'est vrai que c'est assez particulier, parce qu'on a l'impression que la psychanalyse, c'est quelque chose de très abstrait en permanence, alors que Freud, en fait, on se rend compte que souvent, dans ses théories, il a un point de vue très économique. en termes d'investissement, désinvestissement. Et là, c'est ce qui se passe aussi au niveau du deuil. C'est-à-dire que la personne qu'on a perdue, on avait un nombre d'investissements envers cette personne, mais comme je l'ai défini, envers la relation, envers la personne qu'on était avec cette personne, ce qu'elle nous a amené, ce qu'elle nous a pas amené, etc. Et donc, cette charge d'investissement, d'un coup, elle est quand même libérée et totalement désorganisée. Et donc, il parle de cette réorganisation, de ce rétablissement, des investissements donc psychiques qu'on pouvait avoir sur d'autres parties, sur d'autres personnes. C'est pas en fonction des étapes ou des stades, mais c'est en tout cas une réorganisation qui va être importante dans le fait d'être en deuil. C'est quelque chose qui est pas un problème en soi, hein, le fait d'être en deuil, d'être endeuillé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients que j'entends qui sont en difficulté dans le fait même d'être en deuil. Donc ça me paraît inconcevable, parce que c'est quelque chose qui n'a rien de pathologique d'être en deuil. Au contraire, être en deuil, c'est justement être du côté de l'humain, de notre sensibilité, de notre intelligence humaine. Et donc c'est pour ça que ça nécessite cette réorganisation, cette relecture de notre place dans la vie, en tant que vivant, mais de notre place dans la vie avec cette personne, la place qu'on avait pour cette personne, la place que cette personne avait pour nous, ainsi de suite. C'est pour ça que je pense que dans le deuil, il faut vraiment percevoir la personne, mais la relation qu'on avait aussi avec cette personne. C'est-à-dire que quand on perd un père ou une mère, par exemple, on perd la relation donc avec cette mère, mais comme je disais, on perd aussi son statut d'enfant de cette mère-là. Donc ce temps de deuil, ce processus, c'est pouvoir aussi se reconnecter avec la personne dans son entièreté, ce qu'elle a été, mais aussi ce qu'elle n'a pas été. Donc l'amour qu'on a pu avoir pour cette personne, mais aussi parfois la colère, l'incompréhension, etc. Donc la personne, elle peut prendre d'un coup une place d'idéal, de fusion, quand elle est partie, et c'est normal de passer par là. Comme il peut y avoir beaucoup de haine aussi dans le deuil, de vivre ou revivre par exemple un abandon, d'être en colère parce que la personne peut-être nous a laissé tout seul, et c'est important de reconnecter aussi avec cette colère. Et même dans le deuil habituel, il y a aussi cette part de haine qui permettra d'avancer. C'est plus difficile à accepter, mais la personne, pour justement avancer aussi dans cette démarche-là, elle va aussi se co-construire une pensée, un souvenir autour de sa relation avec cette personne et de l'être en tant que tel, qui sera pris forcément dans des investissements qui auront été ambivalents. Fait voilà d'amour, de haine, de colère, de savoir vivre, mais encore une fois d'incompréhension, de difficulté d'ajustement. Enfin, on est toujours dans une relation avec quelqu'un, même si on a l'impression que c'est l'idéal même, c'est pas possible. Et dans le deuil, ça demande aussi de passer par ce temps-là où on se reconnecte à la personne. Donc l'importance en fait de redonner un statut de personne, de sujet à celui qui est décédé. Donc c'est tout le paradoxe en fait du deuil, c'est que celui-ci doit faire place intégralement à la personne, lui redonner aussi sa place initiale, donc c'est-à-dire que sa place où, ben justement, peut-être que la veille on s'était beaucoup disputé, ou peut-être que la personne faisait toujours quelque chose qui nous a mis en difficulté, et en fait il faut que la personne elle réexiste dans toute son entièreté, pour pouvoir à un moment donné pour être dans la possibilité d'être plus apaisée dans ce au revoir. Et ça veut pas dire que la personne, elle n'existera plus, mais on aura pu avancer sur ce qui va continuer à exister en soi de cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de difficultés de compréhension dans les familles autour du deuil, Parce que alors que ça devrait être une expérience, on pourrait se dire qu'il rapproche parce que on peut perdre une personne commune qu'on a tous aimée. En fait, c'est là où dans des familles, ça explose aussi, ou alors ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il faut vraiment imaginer qu'on ne fait pas le deuil d'une personne unique, mais de notre place et de la place de cet être dans notre vie. Et donc, il peut y avoir ces difficultés à faire le deuil en famille, parce qu'on a du mal à se comprendre. Mais en fait, c'est parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne perd pas du tout la même mère, le même ami dans le deuil. Donc pour certains, ils vont perdre voilà, un parent, pour d'autres, ça va être un conjoint, un frère, une cousine, etc. Mais même quand on a l'impression d'être à la même place, donc voilà, des frères et sœurs qui perdent une mère, c'est pas la même mère qui perdent. Et ça, ça donne vraiment matière à incompréhension, en fait, qui fait que chacun réagit de façon différente et a du mal à comprendre la réaction des uns et des autres. Et ça, je pense qu'il faut toujours l'avoir en tête dans justement ce transfert autour de la souffrance et de la tristesse, que le deuil est quand même quelque chose d'intime. Et pour justement se soutenir dans ces épreuves-là, je pense qu'il faut accepter chacun la souffrance qui est personnelle et qu'elle sera pas la même que la nôtre. Et qu'en fait, la personne qui est en deuil de sa mère, même si moi, par exemple, j'aurais perdu ma mère, bah en fait, elle va pas vivre la même souffrance. Donc c'est l'accompagner dans un deuil différent que mon propre deuil à moi. Donc ce processus de deuil, en tout cas, il faut avoir en tête qu'il est long, qu'il demande du temps, et se laisser du temps et de la bienveillance face à ça, pour moi, c'est primordial. Donc toutes les phrases autour de « il faut passer à autre chose »,« il faut être réactif »,« il faut arrêter de pleurer », je pense qu'il faut pouvoir les laisser de côté à un moment donné. Et si ça vous arrive, en tout cas ces situations-là, de pouvoir dire que vous comprenez que l'autre puisse avoir envie que vous passiez à autre chose. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, un conjoint voit que son ou sa compagne est triste, on a envie de lui apporter le fait de passer à autre chose, de le voir de nouveau rire, et parce que c'est très déstabilisant de voir quelqu'un en détresse. Sauf que c'est important de respecter ça, en fait, cette détresse, parce que c'est parce qu'il y a une détresse aujourd'hui qu'il n'y en aura peut-être pas demain. Et que ce deuil, ça vise justement à d'abord passer par une phase où on réinvestit entièrement la personne, comme si du coup, en fait, toute notre vie avait été concentrée autour de cette personne-là, pour pouvoir à un moment désinvestir non pas la personne, mais l'investissement qu'on y avait mis, psychiquement, et pouvoir petit à petit réinvestir ailleurs, en gardant aussi la place de la personne dans son entièreté, et en gardant le fait que cette personne existera toujours aussi en soi, mais peut-être avec le temps d'une façon différente, et que là, quand le deuil est présent, on peut être très pris par la tristesse, si on voit des photos, etc. Mais qu'un jour, on pourra regarder ces mêmes photos et avoir ce souvenir plus joyeux, se rappeler de cette blague, etc. Et l'absence dans la vie, elle restera toujours, puisque c'est objectif. Donc la personne, elle sera toujours absente. Ça, voilà, elle va pas d'un coup réapparaître dans la pièce. C'est sûr, même si au début on peut penser que si, ça fait partie aussi de ce temps-là. Mais la souffrance, elle, face à cette absence, elle pourra être moins tumultueuse, voire plus apaisée. C'est pas une disparition, mais c'est une autre façon de penser à la personne. Ce n'est pas la douleur qui vient en premier lieu, mais ça peut être des souvenirs donc plus apaisés, heureux, nostalgiques. Alors des fois ça veut pas dire que dans 15 ans, on va pas reverser une larme, mais quelque chose, en tout cas, où justement, on est moins pris par cet afflux comme ça qui arrive pendant le deuil. En tout cas, c'est vraiment ce cheminement de la traduction à l'extérieur de quelque chose qui se fait à l'intérieur. Il y a une vraie importance d'ailleurs dans le deuil du rituel, que celui-ci soit religieux, philosophique, personnel. Je pense que c'est important de pouvoir reconnecter et faire des choses qui symboliquement vont avoir du sens pour dire au revoir à la personne et donc garder ce côté actif par la pensée, mais donc par certaines croyances, certains discours, certains donc rituels pour pouvoir se sentir et sentir la personne et mettre en place tout ce qui va permettre de lui dire au revoir sans dire adieu. Voilà, donc c'était un épisode un petit peu plus bref sur le deuil parce qu'encore une fois, c'est une expérience que tout le monde vit mais qui est intime et je pense que en parler, c'est compliqué d'un point de vue théorique. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus parler des étapes de deuil, etc. parce que je trouve que ça n'a pas vraiment du sens. Je voulais vraiment rappeler le fait qu'il n'y a pas de sens au départ mais que le sens, c'est soi-même où on le donne au fur et à mesure. Et que c'est ça qui est important. Et malgré l'expérience irreprésentable, essayer en tout cas d'en parler et de se faire sa propre narration autour de ça, c'est ça qui va en tout cas permettre de penser le deuil non pas comme quelque chose de fini, positif et on passe à autre chose, mais comme quelque chose d'intégré. Et c'est ce qui est important. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute pour si vous écoutez les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison, qui est donc un épisode qui, je pense, va vous plaire parce qu'il finit justement, comme j'avais annoncé, sur une note plus positive, au sens plus qui porte, parce qu'on va parler de la résilience. Et je trouve que après avoir parlé d'angoisse, de traumatisme, dépression, deuil, je pense que j'ai donné un bon paquet. Donc on va finir avant l'été sur quelque chose de qui justement va venir soutenir tout ça. Donc n'hésitez pas à partager vos réflexions, à partager cet épisode si vous a parlé ou si vous pensez qu'il peut parler à quelqu'un. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à bientôt. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.